Vous écoutez Radio Auraviv, la radio plus près de vous, et c'est le moment de retrouver l'émission Le Temps de l'Histoire, présentée par Gérard Levin, en collaboration avec Radio Auraviv Toulouse.
Bonjour, voici votre émission Le Temps de l'Histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un monde légendaire. Je vais vous parler du Golem. Le Golem, cet être d'argile qui a été créé à Prague au moment de la Renaissance. C'est un récit de Nissan Mendel. Donc l'histoire se passe grosso modo au XVIe siècle. Peu de personnes ignorent le Golem, cette créature étrange à laquelle donna le jour le célèbre rabbi Judah Leib Loew, le Maharal de Prague, qui vécut il y a près de 400 ans. De merveilleux récits au sujet de cet être étonnant nous ont été transmis de génération en génération. L'ancienne synagogue du Maharal, dans le vieux quartier juif de Prague, n'a pas cessé d'attirer nombre de visiteurs et de touristes juifs ou non juifs. Moi, personnellement, je l'ai visité. Effectivement, c'est un monument assez extraordinaire. En effet, non seulement parce qu'elle est l'une des plus anciennes de la ville, celle que fréquenta le Maharal, et où le siège qu'il occupait à côté de l'Arche Sainte est respectueusement gardé vacant, mais aussi parce qu'on affirme que les restes d'argile du Golem sont conservés au grenier de ce lieu de prière. Nul n'est autorisé à y monter, et quand les visiteurs en demandent la raison, il leur est répondu qu'un souci de sécurité l'impose, car le toit, peu solide, pourrait s'effondrer. En fait, ce grenier fut interdit depuis de longues années, étant considéré comme un lieu sacré. Enfant, c'est Mendel qui parle, enfant, nous n'étions pas en âge de comprendre grand-chose aux livres saints que le grand Maharal a écrits et qui sont une source inépuisable d'inspiration. En revanche, nous étions fascinés par les récits sur le Golem, sur que le vieux Zacharia, le Shamash de notre Beth Amidrash, avait l'habitude de nous faire de temps en temps, et surtout pendant la fête de Pessah, car le Maharal est né la première nuit du Seder, et bon nombre des histoires sur le Golem se rapportent au Pessah et au terrible libellé de sang d'alors. Il était rare qu'une fête de Pessah passât sans une attaque, ou la menace d'une attaque, de la part d'une populace déchaînée et débordant de ressentiment contre les Juifs sans défense. C'est dans le but de protéger la communauté juive de Prague contre les fausses accusations et les attaques que le Maharal fit le Golem, un personnage d'argile, et lui insuffla la vie par l'invocation du nom de Dieu que seuls de saints kabbalistes d'une valeur exceptionnelle connaissent. On affirme que la naissance même du Maharal mit en échec une telle accusation, comme l'atteste le récit suivant. Rabbi Betzalal, le père du Maharal et chef de la communauté juive de Worms, était assis à la table du CDR en compagnie de quelques invités de marque et d'un certain nombre d'indigents sans foyer. Quand, conformément à la coutume, le moment vint d'ouvrir la porte du prophète, Élie. La femme du rabbi Betzalel, enceinte de 9 mois, fut prise de douleur de l'enfantement. Quelques invités se hâtèrent d'aller chercher une sage-femme. À ce moment précis, un individu d'allure louche profitait de l'obscurité pour s'approcher à pas feutrés de la maison du rabbi. Il portait sur l'épaule un sac contenant le cadavre d'un enfant chrétien. Son intention était de déposer son sinistre ballot dans la cave du rabbin, afin que ce dernier fût accusé, avec preuve à l'appui, de meurtre rituel. Et voyant la porte de la maison s'ouvrir avec fracas et plusieurs hommes se précipiter dehors, le traître prit peur et s'enfuit. Il tomba sur une patrouille de police. Un homme qui court en pleine nuit ne peut qu'éveiller les soupçons. On l'arrêta et le cadavre de l'enfant fut découvert. Pris de panique, le gredin reconnut sans peine que des comploteurs l'avaient chargé, moyennant rémunération, de déposer le sac avec son macabre contenu dans la cave de Rabbi Betzalel. Ainsi, avant même que de naître, le Maharal sauvait la communauté juive d'un terrible libellé de sang. Quand il devient le Der of Rabbi Loew, le grand rabbin de Prague, le péril était grand pour les juifs. Un moine nommé Tadeusz, antisémite notoire, suscitait et entretenait l'agitation contre les Juifs, se livrant à toutes sortes de machinations destinées à leur nuire. Cela ne laissait pas d'inquiéter beaucoup le Maharal. Il priait constamment Dieu de leur venir en aide. Puis, il eut un songe dans lequel lui fut indiqué la conduite à tenir dans ces circonstances. Le lendemain matin, il fait appeler son gendre et son disciple le plus proche et leur fit part du secret que le ciel lui avait révélé. Nous trois, nous constituerons un Bet-Din, cette fameuse cour de justice, un Bet-Din régulier, et nous ferons un golem d'argile qui nous aidera à nous défendre contre nos ennemis, conclut-il. Les trois hommes se rendirent au Mikvé, où ils se sanctifièrent 3 jours durant, se livrant aux prières et aux jeûnes, et purifiant leur esprit et leur cœur avec une concentration extrême. À l'aube du 3e jour, ils préparèrent un paquet de vêtements de la taille d'un homme normal et l'emportèrent à un endroit hors de la ville, non loin de la rive du fleuve. Là, ils modelèrent une statue d'argile ayant l'apparence et la taille d'un homme. Il était dans une position inclinée et son visage tourné vers le ciel. Le Maharal dit à son gendre, qui était un Cohen, d'accomplir 7 akafot autour du golem, tout en concentrant son esprit sur certains noms et certaines lettres, saints les uns et les autres, et que le Maharal lui avait préalablement révélé. Puis, il dit à son disciple, qui était un lévite, de faire de même. Enfin, le Maharal accomplit à son tour les 7 akafot autour du golem inerte. Ayant achevé le dernier tour, il posa un parchemin inscrit où était inscrit le nom de Dieu sur les lèvres de la statue d'argile. Puis, tous ensemble, ils récitèrent avec une grande concentration le verset des Écritures saintes. Ce verset est le suivant. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Verset qu'ils répétèrent 7 fois. À ce moment, le golem ouvrit les yeux. Et alors le Maharal lui ordonna de se lever et de se couvrir avec les vêtements qu'il lui avait apportés. Chers auditeurs, je vous propose une petite pause musicale de quelques minutes.
Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Oh, et si j'étais riche, oh, et si j'étais riche, moi, hey, adieu la charrette, tous les jours j'ai riche, moi, je bâtirai un vrai palais, montant jusqu'au ciel, sur la place du marché. Des murs plantés bien droits, sous un toit doré. Un escalier de marbre, un autre tout en bois, l'un pour entrer, l'autre pour sortir. Et encore un troisième, pour la joie. Et plein ma cour des oies, des coqs et des poules, toute la ville m'envierait, car ça piaillerait, ça caqueterait. Et chaque sonnerait comme un vrai coup de clairon. Regardez tous, admirez ma maison. Si j'étais riche, oh, et si j'étais riche, moi, hey, attire la charrette, oh, et si j'étais riche, moi, je vois ici ma gaule, belle comme une bourgeoise avec un double menton. Nous faisons manger tout ce qui lui plaît. Je la vois se pavanant avec sa robe à traîne. Oh mon Dieu, quelle dignité! Même quand elle dispute les valets.
Nous reprenons le fil de notre histoire. Le Maharal Yogolaim, ton nom est Yosal. Je t'ai créé avec l'aide de Dieu afin que tu accomplisses la mission divine de protéger les Juifs contre leurs ennemis. Tu obéiras à tous mes ordres car tu n'as aucune volonté propre. Ta place sera à l'intérieur du Beit Din et tu rempliras les fonctions de Shamash. Ceci fait, les trois hommes prirent le chemin de la ville suivi par le Golem. Il avait, comme nous l'avons dit, l'apparence d'un homme ordinaire, encore que ses mouvements eussent une certaine rideur. Muet, car le Maharal ne l'avait pas doté du don de la parole, il était dépourvu de toute pensée et de toute intelligence. On donna vite au nouveau bedeau le sobriquet de Yosel Golein. Toute la journée, il demeurait assis au Beit Din, ne disant rien, ne faisant rien, le regard vide. Lui adressait-on la parole, il ne réagissait point, n'ouvrait jamais la bouche. Son visage s'animait seulement quand le Maharal lui parlait. Alors, il écoutait attentivement, humblement, puis partait exécuter ponctuellement l'ordre reçu. Quel kiff! Le Maharal envoyait le Golem patrouiller dans le ghetto. Il avait fort à faire, surtout durant la période la plus dangereuse pour les Juifs, allant de Pourim jusqu'à Pessah. Le Golem obéissait à l'ordre de son maître, arpentant les rues étroites du ghetto. Il avait un flair, dont l'avait doté le Maharal, pour détecter dans le noir un ennemi des Juifs, quel qu'il fût. Il était à la fois puissant et agile. Sa proie ne pouvait espérer lui échapper. Le Golem capturait le chenapan, le garrottait et le transportait comme un ballot jusque devant l'hôtel de ville où il l'abandonnait. Cela fait, il disparaissait et reprenait le chemin du Beit Din où il regagnait sa place qu'il occupait habituellement quand il n'avait pas de mission à accomplir. Ainsi, le Maharal, avec l'aide de son Golem, déjouait le complot de Tadeusz qui mettait à contribution jusqu'à la magie noire pour nuire aux Juifs. Tels étaient les récits que nous faisait le vieux Zécharia sur le Golem. Un jour, lisant quelques frayeurs sur nos visages, il nous conta pour nous dérider l'histoire suivante. On était à Erev Pessah et la femme du Maharal était occupée à préparer la maison pour la fête. C'était une tâche fatigante. Aussi, à un moment, demanda-t-elle à son mari de permettre à Yosel Golem de l'aider. Le Maharal ordonna à ce dernier de faire ce que la Rebetzin lui demanderait. Celle-ci lui dit d'aller chercher de l'eau du puits et de remplir le tonneau qui se trouvait à la cuisine. Yosel Golem prit les deux seaux qu'elle lui tendait et se dirigea vers le puits. Obéissant, il les remplit d'eau et alla les vider dans le tonneau. Il ne fallut pas longtemps pour que celui-ci fût plein. Mais le Golem, comme si de rien n'était, continuait son travail. Le tonneau déborda, mais l'automate poursuivait sa tâche, apparemment ne s'apercevant de rien. Et il continuait de verser de l'eau dans le tonneau depuis longtemps déjà plein. Quand la Rebetzin accourut, la cuisine et le salon étaient inondés. « Arrête, arrête !» cria-t-elle affolée. Mais Yosel n'écoutait point. Elle courut au Beit Din. « Ton golem est en train d'inonder la maison, » dit-elle hors d'haleine à son mari, « et si tu n'arrêtes pas à l'instant, c'est toute la ville qui va être inondée. » Le Maharal se précipita vers la maison. Il ordonna au golem de s'arrêter, ce qu'il fit sur le champ. L'histoire, quand elle fut connue, amusa toute la ville. Yosel Golem avait failli provoquer un déluge aussi grave que celui de Noé. Quant à la Rebetzin, ce fut la première et la dernière fois qu'elle demanda de l'aide à l'étrange personnage. Quand la situation des Juifs s'améliora et que le Golem eut achevé sa mission, le Mahara lui ordonna de l'accompagner au grenier de la synagogue. Là, il lui dit de se coucher et d'ouvrir la bouche. Le saint Rabbi retira le parchemin sur lequel était inscrit le nom divin, il dit au Golem. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Instantanément, ce dernier devint un morceau d'argile. Ce fut la fin du Golem et c'est aussi la fin de notre récit. Mais nous pouvons donner une petite suite autre que littéraire, et je vous en fais part. Le golem était un être le plus souvent décrit comme de forme humaine. Le golem est créé par un acte de magie grâce à la connaissance des dominations sacrées. Dans le judaïsme, l'apparition du terme golem remonte au livre des psaumes et à l'interprétation qu'en donne le Talmud. Il s'agit, dans ce contexte, tantôt d'un être inachevé ou dépourvu de forme définie, tantôt de l'état de la matière brute. Ainsi, le Talmud l'appelle-t-il parfois Adam le golem, quand il veut faire allusion aux 12 premières heures de sa vie, de la vie d'Adam. Il s'agit là d'évoquer son corps encore dénué d'âme. Et c'est surtout le Sefer Yezirab, le livre de la création, et l'exégèse ésotérique qui en fut faite, qui développèrent l'idée du Goleim en relation avec les croyances concernant le pouvoir créatif du discours et des lettres de l'alphabet hébreu. Selon Gerson Scholem, il convient de distinguer différentes traditions au sujet du Goleim. L'une est spéculative et mystique, et elle s'appuie sur la foi et la puissance du Verbe divin en celle des lettres du nom de Dieu, le tétragramme sacré, et plus généralement dans le pouvoir des lettres de la Torah et de leur disposition. Les diverses combinaisons et transformations de ces lettres constituent un mystérieux savoir qui permet de créer. Au XIIe et XIIIe siècle, dans les cercles hassidiques de l'Europe centrale, les légendes issues du Talmud étaient interprétées dans un sens symbolique, cette fois, et la fabrication d'un golem ne désignait qu'un certain degré d'élévation intellectuelle et religieuse. Cette tradition ne fait allusion à aucun intérêt matériel que le sage pourrait tirer de la fabrication d'un golem. Ceux qui, au cours d'une réunion mystique, participaient à l'acte de création, prenaient un peu de terre vierge et en faisaient une idole. Puis, ils tournaient autour en une sorte de danse en prononçant les noms sacrés, le nom sacré de Dieu. Ensuite, le récit de Nissan Meindel s'inspire de ces faits. Et il en a fait cette légende. Mais vous connaissez la suite, je vous l'ai dit il y a quelques instants. Chers amis, voilà une approche rapide sur le golem. Au plaisir de vous retrouver. Merci.
Aura Vive, plus près de vous.